trees are green.
Please evacuate this building. Please evacuate this building.
What a mess for you.
Il faut se retirer les doigts du nez. Oui, c'est obligatoire.
Ouais, on est reçu. Ça m'écoute là-bas ou pas?
Eh hey, oh!
Voix en expansion. Un magazine pour discuter, échanger.
Informer, dénoncer.
Sensibiliser, balancer.
Et mémoriser.
C'est qui d'après vous?
Voix en expansion.
Attention, les voix s'étendent,
s'épandent et s'accroissent,
se développent, augmentent,
se diffusent et se propagent sur le web,
sur les ondes et dans l'espace. Attention, voix.
Voix en expansion.
Un magazine autoconstruit par l'association La Malle aux Libertés.
Ouh, ça c'est de l'information. C'est clair, c'est précis. Je vous tire son chapeau, madame. What a wonderful world.
Bonjour Bernard.
Bien bonjour Annette.
Alors, chers auditeurs, bienvenue sur Voix en expansion.
En expansion, oui, parce qu'on va expanser les voix, et grâce à Internet, et bien sûr Radio Diwa, et tous les gens qui nous suivent, eh bien, on arrive à trouver des petites voix, et surtout des grandes voix, parce qu'elles vont s'expanser.
Voilà. S'expanser, se partager.
Voilà, se diffuser, donc on compte sur vous pour faire aussi diffuser les fichiers. Je sais que de nos jours, on est tous dans l'immédiateté, hein, très immédiat, ça veut dire, les médias immédiats. Eh bien, nous, au contraire, on prend notre temps, on fait une émission par-ci, par-là, et c'est l'association La Malle aux Libertés, et nous faisons ça bénévolement. Entre les reportages, les montages, se déplacer, j'espère que vous ne serez pas déçus, surtout que ce soir, nous avons encore du beau monde, comme on dit, dans le monde de la photographie.
Et oui, donc l'émission d'aujourd'hui s'appelle Grandeur Nature. Donc Grandeur Nature, grâce encore à ce festival que nous avons pu, qui nous a permis de partager de belles rencontres et de belles voix.
Bah, je sais pas, j'ai l'impression que c'est formidable. On vit des fois des rêves tout éveillés, puisque on a pu faire aussi un interview tout en intimité avec Jacques Perrin.
On commencera. Qu'on vous fait partager ce soir.
Oh, bah, bien sûr, parce que c'était un moment extraordinaire. Alors, bon, voilà. Et puis d'un coup, après, nous avons Vincent Munier, le grand photographe. Et je vais te dire, Annette, dans ma chambre, quand j'étais adolescent, il y avait toujours une photo de loup, une grande photo de loup. Que beaucoup de gens connaissent, une photo avec un loup derrière un arbre, plus une meute de loup. Et quand je vois les photos de Vincent Munier, je me dis combien d'adolescents doivent avoir cette photo-là en se disant « un jour j'irai aussi dans ces grands espaces ». Eh bien, Vincent Munier, c'est quelqu'un d'extraordinaire, quelqu'un qu'on va pouvoir approcher ensemble, chers auditeurs, et vous allez voir, s'il fait des belles photos, c'est qu'à l'intérieur, c'est magnifique. À l'intérieur de lui-même, bien sûr.
De lui-même, un grand cœur. Et avec beaucoup de partage et une simplicité, moi je trouve, qui est vraiment accessible à
de
tous.
De la nature, enfin, voilà. De la nature, comme Jacques Perrin, c'est vrai que toutes les personnes qu'on a rencontrées dans le cadre du Festival, on a décidé de vous les faire partager avec Voix en expansion, parce que c'est vrai que c'est très important de parler de la nature, de prendre son temps, d'allumer un petit feu pour ceux qui ont une cheminée, d'écouter tranquillement. Et donc on s'est dit, on va vous partager ça. Toujours bénévolement. Si vous voulez donner un petit coup de main, vous pouvez. Il y a un petit tips sur un petit site Tipeee, mais bon, je crois pas que ça marche pas trop fort, honnête. Hein, ça paiera peut-être le litre d'essence pour sortir de la maison.
C'est pas grave, on fait pas ça pour ça.
Il faut dire que l'essence coûte un prix d'or en ce moment. Allez, à bientôt. Donc on va écouter ça. Et puis on a une petite surprise pendant l'enregistrement de cette émission. Un poète est venu. Et c'était assez sympa aussi, très populaire, mais vraiment sympa.
On aura le temps d'en reparler. Alors, chers auditeurs, ouvrez bien vos oreilles.
Pour la grandeur nature.
Pour la grandeur nature.
which way the wind blows when this day is done.
Bonjour Jacques.
Bonjour.
Alors on était en train de marmonner dans notre barbe réconciliation.
Eh oui.
C'est...
Ben, je pense que c'est un des projets, une des initiatives qui est la plus louable. Parce que réconcilier l'homme avec un environnement qu'il oublie, avec une nature qui est presque dans les souvenirs, de s'apercevoir que non, elle est vivante la nature, qu'elle est là, et qu'on peut y correspondre. On peut correspondre avec les animaux. Ça a l'air de rien. Les animaux sont très discrets. Mais quand on va dans les espaces qui vont leur être réservés, on s'aperçoit comme ça existait il y a des dizaines de centaines de milliers d'années, il y avait une correspondance entre la nature et les animaux. Et ce n'est pas simplement que les animaux, ce sont les espaces. Redécouvrir les espaces. On n'a pas le temps parce qu'on est dans nos cités, on ne regarde pas parce que ce n'est pas très joli, puis le macadam, il n'y a pas grand-chose à regarder. Mais quand on regarde les montagnes, quand on regarde les forêts, quand on regarde tout cet environnement qui est véritablement enchanteur, eh bien, il y a une réconciliation. On se trouve bien chez nous, qui avions oublié que c'était aussi chez nous, même si c'est partagé, c'est pas chez nous, c'est chez nous ensemble, avec les autres, c'est-à-dire avec les autres, avec les animaux, et je pense. C'est comme les enfants, on a beaucoup à apprendre de ceux que l'on ignore un peu chez les animaux, beaucoup à apprendre aussi chez les enfants. Bien souvent on dit aux enfants, regarde un peu comme font les adultes. Non, aux adultes on va leur dire, regarde comment font les enfants. Les enfants, il y a une spontanéité, il y a une joie de vivre. Et c'est ça qu'il faut réconcilier.
On enlève l'humain, peut-être? Ou alors, comment ça se passe? Parce qu'on a l'impression que l'humain, finalement, tout à l'heure, je discutais avec les grands spécialistes des cachalots, et j'ai l'impression qu'il y avait l'humain, les cachalots, mais finalement, on n'était plus l'humain dominant, mais on était l'humain comme on serait le primate, quoi.
On a oublié que nous sommes des êtres vivants. Nous avons hier soir projeté un film qui était Dersu Uzala.
Oui, je vois bien. Hein, je vois bien.
Qui est magnifique. Et qui fait que, qu'est-ce que nous enseigne Dersu Uzala? C'est qu'il y a une profonde famille. C'est que Dersu Uzala, il appelle tous les êtres vivants, et pas simplement les êtres vivants. Bien sûr, il y a les arbres, il y a les plantes, mais tout ce que l'on peut trouver... C'est un être qui vit et il faut que l'on partage. Ce ne sont pas des accessoires ce qui nous entoure, ce sont des êtres vivants. Donc un minimum de regard, un minimum de considération. Et la considération, ce n'est pas faire un effort pour les autres, mais on sera heureux en vivant en harmonie avec les autres.
Un respect mutuel.
Un respect mutuel.
Quelle ouverture ce salon nous fait, avec un enrichissement extraordinaire. On s'enrichit, on s'abreuve, on se...
Mais bien sûr, et c'est de montrer les chemins, les voies qui nous sont offertes et que l'on oublie. Et donc cette initiative avec votre manifestation, qu'est-ce qu'elle est bénéfique, ouais. Qu'est-ce qu'elle est... Elle doit être exemplaire. Et je pense, comme elle est bien faite, là depuis 2 jours, 3 jours, on le vérifie, je suis persuadé qu'elle va essaimer,
voilà.
Et qu'il y en aura un peu partout.
Alors,
et qu'au bout d'un certain temps... On sera sur notre territoire commun, pas sur le nôtre, mais notre territoire commun.
J'avais rêvé, parce qu'il y a le petit tortillard, on appelle le tortillard le train,
ouais.
Carrément des instits qui viennent, puis qui sont là, et puis après qui vont repartir avec telle chose, parce que nous qui sommes dans l'éducation populaire aussi, on se dit, on s'abreuve, on repart, et on va... À notre manière, chacun à sa façon, remettre le discours. Et c'est ça, là, c'est ces points de ressources qui sont extraordinaires.
Bien sûr, parce qu'il y a des espaces, il y a des lieux où on peut se ressourcer. Et ça, ne pas oublier d'où nous sommes, d'où nous venons, et de s'apercevoir que finalement, il y a des êtres qui nous semblent éloignés, hein, derrière nos bitumes, derrière nos immeubles, derrière tout. Mais non, il y a autre chose. Et reprenons les chemins de nature. Oh, de temps en temps, il y a un peu de boue, de temps en temps, il y a un peu de pluie.
Ouais.
Même la pluie, qu'est-ce que c'est agréable.
Ouais,
la pluie, on prend un imperméable, on s'abrite sous les chapiteaux, comme ça. Mais non, on commence à respirer.
Ouais, c'est
ça, c'est beau aussi dans les pays d'Asie, la mousson. La mousson, quand il pleut, on court, on ouvre nos imperméables parce qu'il n'y en a pas besoin, et on se sent en harmonie, en relation. Donc c'est ce qu'il faut redécouvrir. nos territoires ne sont pas, les territoires dans lesquels on vit, ils ne sont pas fermés, ils sont ouverts. Ils ne demandent qu'à être entrouverts. Et nous, on a la clé, comme les animaux ont la clé. Donc on va ouvrir toutes les portes de la nature.
En tout cas, je vous remercie Jacques, parce que vous avez ouvert des fenêtres à des personnes. En tout cas, je peux le savoir, parce que j'étais il n'y a pas longtemps au pied de personnes qui n'avaient pas forcément la chance de pouvoir sortir de... Et ces images qui rentraient, mais qui en même temps nous prenaient et on allait ailleurs. En tout cas, merci pour cela.
Oui, ces images, elles sont faites par des gens. J'ai des collaborateurs, j'ai des cinéastes, j'ai des photographes, j'ai des preneurs de son et qui sont à l'éveil et qui sont là, qui savent guetter et qui disent n'oubliez pas, écoutez bien, parce que là, il y a quelque chose qui est formidable. Notre richesse, elle est répandue dans la nature. Alors, préservons-la.
Donc on recommence, on reviendra comme les oiseaux migrateurs. Reviendra parce qu'une fois qu'on a trouvé un lieu où on est bien, on a fait une bonne observation. J'ai entendu tout à l'heure qu'il y avait un naturaliste qui disait un lieu où on a fait une observation exceptionnelle, on a envie de revenir. J'ai l'impression qu'ici on a envie de revenir aussi.
Bien sûr, c'est comme, vous savez, les chemins, les campagnes de notre enfance. Pourquoi même
il y a un mur qu'on aime.
À l'âge avancé, on y retourne. Et on s'entend bien. Et on commence à raconter les petits arbustes, les petites maisons, et on sent bien de savoir que finalement, ce n'est pas cantonné, limité à notre enfance, mais le plaisir de communiquer avec la nature, elle s'ouvre. Mais pour ça, il faut des associations.
Ouais.
Il faut qu'il y ait des gens qui défendent et qui rappellent à ceux qui l'ont oublié. Allons. Vous avez eu tort d'oublier, parce que qu'est-ce qu'on est bien.
Vous avez eu tort d'oublier, après être réconcilié. Merci beaucoup.
Merci, merci.
Avec moi embarqué quelques illuminés, des fous. Oh oui, des fous. Je leur ai proposé pour unique salaire de la traînée de poudre d'étoiles polaires, d'accord. Ils m'ont dit d'accord. À la tombée du jour, quand le monde est chaos, Black, on sort les échelles et les chalumeaux, Franco. On grimpe là-haut. Perchés sous les étoiles, givrés que nous sommes. Dans la nuit noire, nous travaillons pour les hommes. Encore, nous travaillons encore. Et encore, et encore. Chasseur de comètes, sur chaque étoile filante, un rêveur, un poète qui éclaire ce monde à refaire. Si par un heureux présage, tu levais la tête, grâce aux souffleurs de nuages, tu nous verrais peut-être d'ailleurs. On t'attend ailleurs. Par quitte la ville, ces foutus réverbères, viens nous rejoindre au-dessus des froids de lumière. Embarque, prends place, on t'embarque. On a du boulot pour toi si tu le veux bien. Rallumer les étoiles du soir au matin. Encore, les rallumer encore. Et encore.
temps dans ce FestiWide. Bienvenue dans la Drôme, bienvenue vers chez nous, bienvenue dans ces grands espaces qui sont le parc régional du Vercors. Et surtout, on se déplace pour voir tes images. Et la preuve, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui te suivent, et te suivent à travers ton œil de photographe. Ça a commencé, il me semble, avec un gain d'une photo il y a longtemps, ou quelque chose comme ça.
Oui, j'ai commencé...
Parce que nous, on travaille, comme je l'ai dit, avec des jeunes, et c'est bien aussi de dire que non, tout peut commencer quand on a des idées.
Mais j'ai déjà eu la chance de grandir dans une famille qui était sensible à la nature, et puis mes parents nous émerveillaient, ma sœur et mon frère et moi, à la nature par le biais de balades dans la forêt, de canoë, d'escalade. Et puis mon père était et toujours naturaliste et assez engagé dans la conservation de la nature depuis très tôt. C'était un peu les écolos dans les années 70 en parka, verte, longue barbe, contre les pluies acides, les téléskis dans les Vosges.
Qu'est-ce qu'ils diront de nous plus
donc
tard.
J'ai baigné là-dedans, ouais. Si tu veux. Et donc du coup, j'ai eu la chance qu'ils m'apprennent un peu comment se comporter dans la nature, comment observer, être discret, approcher les animaux sans les déranger. Donc voilà, et tout ça pour dire qu'à 12 ans, en effet, il y a eu un déclic. J'ai fait une photo d'un chevreuil. Et il m'avait laissé tout seul sous un filet camouflage. C'est un peu bateau, mais c'est vraiment s'est passé. Ouais. Même si j'étais sensible à l'observation de la nature, mais quand même, la photographie est venue grâce à ce moment où il m'a laissé dans une tranchée, dans une allée forestière, dans une forêt dans les Vosges, sous un filet de camouflage, plusieurs heures. Et j'ai eu trois chevrettes qui sont venues tout près. Alors, j'étais tremblant de peur.
Ça te touche, Annette. Hein,
et j'ai fait ma première photo qui était complètement floue. Hein, c'était de la diapo à l'époque. Et après, moi j'avais 12 ans, donc tout gamin, je pensais plus qu'à ça, quoi. Et je prenais mon vélo, j'avais la chance, il y avait une friche derrière la maison, et puis je partais, même mes parents me faisaient confiance, je prenais mon duvet, je partais déjà bivouaquer.
À quel âge ?
J'avais 13-14 ans, ouais. Un vieux vélo, et puis je partais les week-ends essayer de photographier les renards, les chevreuils, les sangliers, toute la faune, tous les animaux qui étaient autour de chez moi.
D'accord, tu cadrais.
Et donc c'était rigolo parce que je continue toujours, je reste un grand gamin parce que maintenant c'est mon métier. Mais c'était ça, c'était faire des cabanes en fait. Je faisais des cabanes, une vraie vie d'Indien aussi parce que on a fait avec mon père mais des centaines et des centaines d'affûts dans des arbres, sous terre, sous des fils, dans des branchages. Je faisais des sentiers où j'accédais de nuit à une petite cachette pour faire des chevreuils et je venais nettoyer les feuilles pour que chaque pas ne fasse pas de bruit pour accéder.
Waouh.
On faisait des affûts, lui il a créé une petite barque pour aller avant les affûts flottants pour essayer d'être au niveau de l'eau pour faire tous les castors, les oiseaux. Donc en fait j'ai grandi là-dedans, donc c'était génial.
D'accord. Into the wild.
Dans les Vosges, et j'habite toujours dans les Vosges et je fais toujours des photos avec mon père. Il est un peu plus âgé, lui il se bat toujours pour protéger les vieilles forêts vosgiennes où il y a du grand tétras. Mmh. Un oiseau qui est en voie de disparition mais qui est symbole de toutes ces vieilles forêts et qui regorge de vie, des insectes, des petites chouettes, des piques et tout ça. Donc lui il est encore toujours dans le combat et puis moi j'en ai fait mon métier entre guillemets, ça fait bizarre de dire ça mais oui je suis professionnel de la photo depuis 2000 et je pensais pas vivre de ça. C'était je voyais ça comme une passion. J'ai arrêté l'école très tôt à cause de ça. Je pouvais pas rester sur les bancs de l'école, donc j'étais toujours dans la forêt.
Ouais.
Donc j'ai pas mon bac. et donc je me suis dit, j'avais commencé à être maçon, à être horticulteur pour payer mes films à l'époque, en me disant, j'aurai un petit boulot, puis j'assouvirai ma passion.
Donc après, petit à petit, donc le cercle s'est agrandi des Vosges. On part de plus en plus loin ou alors
C'est ça. Après, j'ai 18 ans, j'ai une voiture. Donc, c'est vrai que la voiture, elle m'a fait aller dans les pays qui me faisaient rêver étant gamin. Parce que je buvais tous les magazines, les livres de Robert Hénard, de Géroudet, de tout ça. Donc, et Hénard, il m'a fait aller tout seul, j'avais 18 ans, dans les forêts de Slovénie pour voir mes premiers ours.
À Bielovieja,
À Bielovieja, on y est allé après en famille, j'avais peut-être 15-16 ans. Après, premier voyage, les pays de l'Est. Je voulais voir les Vosges, mais encore plus sauvage.
D'accord.
Les forêts de vraiment type primaire, c'est ça qui me plaît beaucoup. Quoi. J'ai un côté, pas primitif, mais je suis sensible aux forêts qui n'ont pas été trop touchées par l'homme. Où il y a la présence du loup, de l'ours, du lynx, des chouettes de l'Oural, de tout. Et ça, je l'ai un tout petit peu dans les Vosges, il y a des petits micros. Mais sinon, très vite, l'homme est là. Donc je suis allé dans les pays de l'Est après, Scandinavie.
Et tu, ouais, tu retournes quand même dans tes Vosges avec passion malgré les voyages.
Mon...
Tu,
ouais,
pars, tu pars à Terra Adeli, tu reviens.
Ouais,
tu
ouais,
retrouves ton blaireau, j'allais dire, local.
Ouais, ouais. Là, je suis, ouais, bon, je suis venu là parce que je, voilà,
ah, je fais les festivals. Bureau,
non, non, mais ah, parce bon, que bon, Boubou, c'est un copain, Jérôme, et tout ça, puis c'est un bel esprit. Mais sinon, là, c'est le Brame du Cerf. Je suis, hier matin, j'étais à 5h au Brame du Cerf. J'ai toujours des rendez-vous, même si je voyage beaucoup pour mes photos. Il y a des rendez-vous incontournables, les affûts au Grand Tétras, le Brame du Cerf, les affûts blaireaux au mois de mai-juin. Il y a des espèces de rendez-vous dans l'année qui sont incontournables. Le lynx au mois de mars quand il y a le rut.
Ouais.
Et donc, mon camp de base, c'est là pour l'instant. Et je m'y sens relativement bien. Je dis relativement bien parce que des fois, j'ai envie de m'échapper dans un endroit où il y a moins d'hommes.
D'accord.
Où il n'y a plus de chasseurs.
Alors là,
plus de...
on te branchera avec notre ami bon, du Chevreuil, ouais, qu'on a eu ce matin, qui est assez extraordinaire. Je ne sais pas si tu l'as rencontré. Là.
Oui, on avait un peu parlé. Voilà.
Mm. Bon, avec Geoffrey. C'est assez sympa. Et alors, quand on dit ton nom, les gens, même qui ne connaissent rien, disent « Ah oui, les photos où c'est tout blanc ?» Avec
ouais, les photos de blanc, ouais.
Ouais. Mm. Alors ça, ça a été, pour le grand public, enfin, quelque chose de... De magique, d'un coup, mmh, la Terra Adeli, ou même ailleurs d'ailleurs, ça, voilà, c'est. Wow. C'est le graphisme, ouais, mais il y a quelque chose qui nous a marqué, mmh, qui nous marque un peu. Je sais pas. Mmh. Bon.
Mais, ouais, je pense que depuis tout gamin, j'adore la neige. Hein. Dès qu'il y avait la neige, j'étais heureux, quoi.
Et c'est graphique, quoi.
C'est graphique, j'adorais les crêtes vosgiennes quand il y a de la neige, j'y étais. Je trouve que, comme je dis, des fois, ça efface tout le superflu pour garder que l'essentiel, et c'est ce qui me plaît de montrer dans mes photos. C'est une petite note animale dans ces grandes étendues blanches ou dans son environnement. Moi, j'étais vachement influencé par... photographe japonais Michio Shino,
oui,
par Jim Brandenburg, des photos Anu Otala,
magnifique,
des gens qui mettaient l'animal dans son milieu.
Mm-hmm.
Et ça, je pense que bon, déjà j'ai été influencé par Renard, toutes ouais, ces ambiances, d'où l'expo là, hein, ces ambiances ouais, où l'animal est suggéré. Donc c'est vraiment la réalité de ce qu'on voit, de l'observation, parce que finalement, quand on voit les photos de catalogue ou d'agence où tu peux compter les plumes d'un oiseau ou les poils d'un mammifère, c'est assez rare. Tu vois jamais ça dans la nature, c'est très rare. C'est souvent des visions sauvages, très furtives. Enard m'a beaucoup influencé là-dessus. Et parce que c'est ce que j'ai vu, c'est ce que je voyais. Donc ça, c'était... des fois,
ambiance.
On dit, ouais, les ambiances Meunier, c'est des photos floues.
Bah ouais.
Mais oui, mais c'est ça, des fois. Ouais. Et puis le blanc, il est venu assez tôt. Moi, j'aime bien... Je suis pas maso, hein, mais j'aime bien être confronté à des conditions difficiles parfois.
Oui, parce que
je pense que
ces conditions difficiles,
ça j'aime bien me remettre ouais, dans un sentiment de vulnérabilité. J'aime bien les tempêtes. J'aime bien quand la nature se rebelle en fait, vient mettre la pagaille dans nos. Alors je le dis en petit, en catimini. Hein, mais j'aime bien quand il y a des inondations. Alors c'est pas cool quand il y a plein de morts, mais quand la nature se rebelle quoi. Et ça me plaît. Et quand je suis face à une tempête. Eh ben, on se sent tellement fragile, j'adore ça. Et donc, du coup, j'ai fait beaucoup d'images d'aller bœufs musqués en Scandinavie, le Grand Nord, les loups blancs en Arctique et tout ça. C'était pour montrer ces animaux qui vivent finalement toujours dans ces genres de conditions complètement incroyables. Ouais,
j'ai regardé un livre de toi avec mon petit-fils. Et alors, quand on ouvre les pages, c'est... Bon, ça...
ouais.
Les bœufs musqués, c'est pour ça, cette image-là.
On dans l'ambiance.
On entend le...
Ah, mais c'est quand même incroyable ces bœufs musqués.
Ouais.
Tu te rends compte, en Arctique, ils sont 3 mois, 4 mois de l'année dans le noir total. Il fait moins 40, moins 50. Ils bouffent, ils grattent la terre, la neige, la glace pour aller choper des toutes petites graminées.
Un petit peu de permafrost.
C'est quand même fou, quoi. Ouais. C'est des animaux pierres. Ils sont là, ils se font tabasser par les tempêtes, des vents à 200 km/h. C'est quand même incroyable.
Alors, quand tu parles de vulnérabilité, le photographe, il est comment là?
Ben ouais, il essaye de tant bien que mal. Mais pff,
vous serrez les uns contre les autres.
On souffre. Mais non, mais après, bon, on a du matériel technique qui nous permet un petit peu, avec un peu d'expérience, à résister à ça, à peu près.
Ouais.
Mais bon, on a eu des petits soucis quand même. J'étais retourné sur l'île de l'Esmer avec un copain, avec un gars enfin, Yannick, là. Puis lui s'est fait amputer des orteils. On est vulnérable, quoi. Manque de poils, quoi.
Les beaux serrés les uns contre les autres, ça suffit pas.
Non, ça suffit pas. Mais ouais, non, c'est toujours bon de se sentir petit dans ce genre d'élément.
Donc tu pars encore, tu pars toujours, mais dans ces cas-là, les moyens de déplacement, Tu vas sur l'île des Smers, ça se passe comment? Vous êtes en skidoo?
Alors, non, skidoo, moi je veux pas. Non, j'aime pas. Enfin, c'est encore, je pense, ça vient de mon père. Hein. Malgré tout, de toute façon, je dérange quoi qu'il arrive. Dès qu'on est dans un endroit, on dérange. Mais essayer de minimiser vachement et de pas être intrusif. Et la motoneige, je serais 100 fois plus efficace d'aller voir ce que fait la BBC ou d'autres équipes télé, d'aller chercher les loups blancs en motoneige. Mais c'est pas pareil quoi. Mmh. Et là, non, bah, là c'est un avion. Je me suis greffé sur un vol de scientifiques et d'explorateurs qui partaient au pôle Nord, et puis ils m'ont déposé avec un petit avion qui atterrit sur la banquise, et puis et j'avais mes traîneaux, deux traîneaux, et que je tirais tout seul sans chien, et puis ils sont venus me chercher un mois après. Voilà.
C'était
un peu engagé,
c'est nature
là, quoi. Tout seul c'était engagé, je l'ai fait quelques fois sur l'île de Banks aussi. Mais quand on connaît bien son matériel, sa tente, tout et tout, c'est génial. Hein. On souffre un peu, mais parfois, il y a plein de moments super agréables. Hein. Mm.
Il y a beaucoup de gens qui suivent donc tes photos. À travers ça, on s'échappe un peu. On retrouve un peu ça sur les crêtes du Vercors, même si on part deux jours. On n'est pas sur Fairbanks ou enfin, on n'est pas sur la banquise et autres. Mais c'est vrai que ça, on a maintenant, actuellement, ce retour, de dire. C'est bon, je prends ma tente, je laisse tout le monde tranquille. Bon, c'est pas forcément pour la production de photos, hein, mais on a vraiment cette passion d'être en contact avec la nature, quoi qu'il arrive, parce qu'il y a quoi qu'il arrive. Là, il y a pas grand-chose. C'est-à-dire que tu pars comme ça, là, je sais pas, moi, je me disais, sur Terra Adélie, tu étais toujours accompagné ou...
Parce que Terra Adélie, c'était moins engagé que l'Arctique, parce que Terra Adélie, on dépendait de la station de DDU. Voilà.
Mais il peut arriver vite quelque chose.
Donc, il y a un protocole assez strict, parce qu'on est tellement loin de tout. Ouais. Que s'il y a un accident, c'est compliqué à gérer. Donc du coup, il y a des distances à ne pas dépasser autour de la base. Et on a un contact radio sans arrêt avec la base. Bon, cependant, c'est toujours un peu dangereux parce qu'il y a de la débâcle, donc là, les plaques de glace peuvent nous embarquer. Il y a des tempêtes qui sont très très violentes.
Ça peut être d'un coup d'un seul, tout peut changer.
Voilà, mais non, sauf qu'on était quand même une équipe, on était avec des contacts radio, donc non, c'était un peu moins engagé que l'Arctique. Mais c'était quand même pour moi assez fascinant parce qu'il y a l'énorme océan glacial antarctique qui nous coupe totalement. On a l'impression d'arriver dans un autre monde, vraiment l'Antarctique. Contrairement à l'Arctique, il y a une myriade de petites îles qui nous font, qu'il y a toujours un lien. Donc on retrouve des mammifères terrestres, ce qu'il n'y a pas du tout là-bas. Là, l'Antarctique, c'était un choc de rencontrer des animaux. Un continent qui n'a jamais été habité que par des scientifiques, rien que ça. Donc d'avoir des manchots ou des... qui n'ont pas peur, quoi, qui viennent te voir, ça c'est fabuleux. Ça c'est rare là-haut dans le Nord. Ça peut arriver, mais pas trop.
Certains refrains sont plus joyeux que d'autres. comme je le croyais. Tout s'arrange à la fin à peu près. Tout s'arrange pas comme je l'espérais. Ah, il a comment, il peut me l'endormir. Il pomme le dent, il pomme le dent, il love mon love. Il pomme le dent, il pomme mon. Ah, il bon, ah, il bon, ah, il love. Il pomme le de là-bas. Il pomme le dent, il love mon love. Il pomme le dent, il pomme mon. Ah, il bon.
Vous avez des questions après ce grand tour, hein, malgré que on est tous partis, je pense. Hein, on était tous partis dans les images. Est-ce que vous avez des questions pour Vincent? On en profite, on est entre nous. Oui, non? Je suis sûr qu'il y a des questions qui pleuvent, mais
et est-ce qu'il y a la photo, une licorne qui vous traite dans la, qui vous trotte dans la tête, que vous avez envie de faire un jour?
Ouais, ouais, bonne question. C'est vrai que j'aime. Finalement, j'ai aucune recherche. Excusez-moi, j'ai un peu de mal. Hein. Non, j'ai pas de recherche de style, rien. Tout vient tout naturellement. Et les Vosges, en effet, c'est les ambiances crépusculaires. Il y avait beaucoup d'ombres chinoises. Le blanc, c'est tout ce qui était très épuré avec l'Arctique, la neige. Là, j'étais souvent en Tibet ces derniers temps. J'ai fait 6 expéditions là-bas pour la Panthère des Neiges. Et on y était en février dernier, là, donc là c'est fini. Et là, je pense qu'on vient d'imprimer les livres hier, on est en train de terminer. Il y a beaucoup plus de couleurs, tu verras. On commence quand même toujours par le noir, les ombres chinoises. On a plus de couleurs après, de la steppe des hauts plateaux tibétains. Et puis on termine par le blanc, parce que j'ai pas pu m'en empêcher. Mais il y a quand même du coup de la couleur. Et après, non, il n'y a pas... Non, pour l'instant... Pour l'instant, non. Je termine le Tibet. Pour être sincère, après, au niveau photo, je pense que c'est bizarre comme vie. En fait, c'est un mixte entre... la photo, c'est vraiment un prétexte. Des fois, elle me fatigue vraiment. Tout ce qui est matériel, tout ce qui est lourd, on parle matériel. Mais là, ouais. Au Tibet, un générateur a cramé toute ma batterie. Qu'est-ce qu'on pouvait faire? On était, c'est casse-pied, c'est lourd. Cette limite dans tes progressions, dans tes ascensions, c'est vraiment... Des fois, j'aurais envie d'arrêter la photo, vraiment, vraiment. Et là, j'ai même déjà envie un peu d'arrêter les voyages. Quand tu parlais d'aller dormir et tout, c'est vrai que ce qui est casse-pied, c'est qu'on n'arrive pas à protéger la beauté de nos natures près de chez nous. Mais finalement, ce qu'il faudrait, c'est arrêter de voyager, quoi. On pourrait se faire vraiment plaisir avec des choses autour de chez nous. Et là, c'est vrai que pour l'instant, j'ai plus de projets photographiques, j'ai plus d'envie à part faire des choses autour de chez moi dans les Vosges. Pourtant, j'ai pas mal voyagé avant.
Alors moi, je te rassure tout de suite, comme et ça, on va pas aller tous aller voir la Panthère des
Alors,
Neiges.
Alors, c'est marrant,
c'est-à-dire
parce que là,
quelque part, de... quelque part, c'est pour nous, ça y a un grand partage.
Ouais.
Et finalement,
mais c'est tout le paradoxe de mon métier. Déjà, c'est une passion personnelle, égoïste. J'ai grandi dans la nature, j'ai qu'une envie, c'est viscéral, c'est à l'intérieur, j'ai envie d'être dehors et de vivre ça. Après, la photo, c'est un moyen de partager. Je partage des émotions parce que j'ai vécu une situation privilégiée de rencontrer, d'être face à des animaux pareils. Donc, c'est génial, on partage par des photos, des expos, des films. Donc, ça, c'est très bien. Mais après, il y a le paradoxe. J'ai beaucoup de remises en question sur ce métier finalement, parce que on a beau montrer le beau depuis des années. J'ai encore relu le livre de Gary, 1956, Les Racines du Ciel. Je vous invite à le lire, c'est hallucinant. Il avait tout compris. On pose exactement, on a le même discours, il y a 60 ans. Et Cousseau est arrivé. Alors, il a utilisé la nature au début. Il s'en est amusé, mais très vite, il s'est engagé dans un combat. En montrant le beau, en essayant de montrer Hulot est arrivé, c'est pareil. J'ai l'impression que de montrer le beau, c'est bien, ça peut pas faire de mal, mais c'est pas suffisant. Et même parfois, ça peut avoir un côté pervers et d'ouvrir des envies. Et moi, je me pose beaucoup de questions là-dessus. Panthère des Neiges, c'est un rêve de gamin, j'y suis allé. Donc là, je vais montrer ça, mais là, j'ai terminé un texte hier qui clôture mon livre en disant à quoi bon ? Parce que là, je vais montrer les panthères du Tibet. J'y ai passé beaucoup de temps, de grandes recherches. Enfin, c'était compliqué. Et après, ça va donner envie. Les gens vont être émerveillés, mais ça va donner aussi aux gens d'y aller.
Et là, je suis suivi. Il y a
mais c'est fou.
Pour l'éléphant ou pour.
Exactement. Et là, je me dis à quoi bon ? Il y a plein d'agences de voyage qui se mettent là-dessus. Et ça me pose question. Est-ce que je n'ouvre pas des brèches et finalement je fais plus de mal que de bien ? Je ne sais pas. Mmh. Et là, je sais qu'il y a des tours opérateurs qui vont se mettre sur la panthère. Comme au Spitzberg, je vois ce qui se passe sur les ours blancs. C'est de la folie furieuse. Maintenant, c'est hyper accessible. Donc tout le monde va là-bas. Là, je suis contacté par des compagnies comme le Ponant ou d'autres trucs qui déversent des centaines de touristes en Antarctique, en Arctique. Et là, tu te dis, purée, est-ce que là, on a. C'est ce que tu disais, il faudrait. Alors, pourquoi moi j'aurais le droit d'aller voir la panthère et pas les autres ? Et c'est vrai, mais il faudrait pas, quoi. Et moi, j'incite les gens à y aller, et finalement, on peut pas tous aller là-bas.
Mais on, donc moi, on je vais va me calmer à travers ces photos.
Ouais. Mais
et c'est, je pense que c'est justement le savoir dès l'ouverture du livre qu'on va jamais y aller, mais que c'est pas l'objectif d'y aller, puisque ce que tu nous transmets, finalement, ça nous suffit amplement et ça nous nourrit. Je veux dire, c'est pas un trophée de ramener à alors notre c'est tour la photo qui ressemble à celle qui aurait peut-être fait. Etc.
Il ne faudra pas que ça soit un trophée, comme tu dis, parce que des fois j'ai l'impression. Je suis invité sur des bateaux qui emmènent touristes. J'y suis allé au mois de mars au Spitzberg, donc très tôt dans les. Et j'étais avec des gens qui ont payé très cher et qui n'arrêtaient pas de dire ah, bah, ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait le Jaguar au Pantanal, j'ai fait l'Antarctique, là je vais faire ci, j'ai fait.
Ouais. Ça fait bizarre.
Putain, mais plus, on est dans la consommation pure et dure.
Est-ce que tu as fait le troglodyte ?
C'est hallucinant. Bah, déjà, est-ce que tu as observé ton rouge-gorge dans ton jardin ?
Voilà, c'est ça.
Et les gars, ils se rendent pas compte. Et donc là, moi, je suis dans des gros questionnements. Parce que ma situation, je ne veux pas être moralisateur, mais elle est non plus pas tout à fait clean, quoi. En disant, bah, moi aussi, finalement, même si ma démarche, elle est différente parce que j'utilise pas, je paye pas des affûts où tout est préparé ou des top-out. J'ai cette envie de recherche, de pistage seul, quoi. C'est ça qui me plaît. Mmh. C'est le côté trappeur, le côté apprendre tout seul, parce que ça nourrit beaucoup plus. Et t'es plus fier de toi. Je suis pas prêt à payer pour faire des images très vite, très très, et puis vite mettre ça sur Facebook pour avoir plein d'éloges ou plein de. Mmh. Donc là, je trouve qu'il y a un côté un peu pervers, et je pense que il faut se poser les bonnes questions pour continuer, bien évidemment, à voyager un peu moins, mais plus intelligemment, et puis peut-être faire réfléchir les tours opérateurs, ceux qui emmènent plein de touristes là-bas, à avoir des.
Et oui.
Je sais pas, une éthique différente. Donc les gens payent, mais ils se rendent compte qu'ils sont pas là pour consommer, qu'ils vont pas faire en 10 jours tel truc, mais ça sert à quelque chose, peut-être. Mmh. Je sais pas. Enfin, en tout cas, moi, je suis pas très positif.
Je crois que. Je crois que j'invite tout le monde aussi, comme disait Robert Reinhardt, à aller voir les blaireaux qu'on a à côté de chez soi. Parce que c'est pas une évidence. Enfin, je veux dire, d'être accepté, ou comme disait tout à l'heure Geoffrey, au niveau des chevreuils, d'être accepté par son environnement, d'être accepté déjà d'ouvrir les yeux sur les toutes petites choses, c'est déjà magnifique. Bon, moi je vous rassure tout de suite, c'est vrai que si les personnes sont là, c'est qu'en fait... Vous nous nourrissez de.
Ouais, mais j'espère que c'est aussi par mes livres que j'ai fait sur les Vosges que je continue de faire.
Voilà. Ouais,
j'ai fait un livre sur le Brame du Cerf là, avec l'expo sur Reynard. Et moi, je continue. Voilà, il faut en effet. J'ai cette envie de découverte, de voyage, d'aventure. Ça m'a toujours été. Mais bizarrement. C'est fou, hein. J'ai toujours rêvé, étant gamin, de pouvoir aller dans telle et telle. Rencontrer telle ou telle espèce. Et là, en fait, je suis dans un sentiment de culpabilité. J'y vais pas. Là, j'ai les moyens, parce qu'avant, je galérais. Et là, ça va, parce que je vends mes photos. Je pourrais aller un peu partout, mais j'y vais pas. C'est fou, hein. On est dans un monde où... là, il faut, et c'est normal, hein, il faut se poser ces questions.
D'accord.
Après, c'est à nous d'avoir la chance que tu partages ces photos.
Voilà. On continue à te le dire. En tout cas, merci beaucoup. Cette beauté qu'on puisse partager. Et puis, c'est vrai, par exemple, je regardais une photo de chouette ou de... Ben maintenant, je regarde la neige différemment aussi. C'est-à-dire que, quelque part, mon Vercors, il est beau. Il ressemble et il est peut-être même encore plus beau que certains coins de la Terre d'Ali. Ça nous apprend aussi à regarder. Et c'est ce que je disais au début. Il y a une pédagogie. C'est ce qu'on parlait tout à l'heure aussi avec Stéphane. La pédagogie n'est pas l'envie d'aller montrer son ego avec j'ai fait la panthère du truc, j'ai fait les gorilles du Rwanda, j'ai fait les... Voilà, et je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens ici qui partagent cette pédagogie, de se dire, bah voilà.
Ouais, je pense aussi, ouais. Hein, tu as tout à fait raison. Retourner aussi sur une certaine sobriété là-dedans, quoi. Dans ouais, dans nos... ouais.
Moi, j'ai vécu la fin des eaux, je suis un peu plus âgé, grâce à des gens qui ont fait des photos. Mm-hmm. Et là, c'est plus que ça, c'est la fin peut-être du voyage aussi. C'est-à-dire, on ouais, peut peut-être se dire, c'est chouette, comme tu dis, bien l'indiquer, c'est chouette, laissez-les tranquilles, parce qu'ils ont besoin d'être tranquilles, ces panthères, elles sont bien tranquilles. Mmh. Et c'est possible, peut-être aussi, que ça va aussi dégager sur des gens qui vont vouloir les protéger, juste pour le plaisir de les protéger, non pas pour le plaisir de faire du fric. Moi, ça me gêne toujours un peu, cette nature qu'on va dire, ah ouais, mais dans les Abruzzes, là-bas, ils protègent les loups, ça rapporte de l'argent, etc. Non, les loups, ils n'ont pas demandé ça. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de... Voilà, c'est...
Ouais, c'est un long débat, ça. C'est un long débat. C'est ce qu'on nous dit aussi, grâce aux photographes et aux safaris, eh ben, en Afrique, par exemple, en Tanzanie ou autre... Eh ben le surpâturage, les Maasai sont bloqués, ne peuvent plus mettre le bétail, et grâce à ces parcs Serengeti ou autres, ces touristes, eh ben on a encore de la faune africaine. Alors oui, c'est vrai, mais c'est triste de constater ça finalement. Mais bon, c'est une réalité.
Là, il y a la sortie sur la panthère. Moi, je suis super content qu'il y ait cette histoire de panthère, parce que justement, je te parlais de mon petit-fils, parce que j'ai l'impression de dire, voilà, tu vois, elle est là. Il y a ça qui existe, tu vois. Bon, on a fait tout un grand truc là sur le rhinocéros blanc, le dernier qui est mort, etc. Tout ça. Et là, bah, si on sait que ça existe, on va peut-être la protéger un peu mieux. Voilà. On va rester sur quelque chose de positif pour ceux qu'on va.
Et puis le clin d'œil de ton histoire aussi, c'est aussi de se dire que l'éducation, hein, c'est important. Et
voilà, nous, on fait la pression là-dessus. On t'embobine là-dedans.
Non, voilà. Bien sûr, mais ça, je suis le premier.
Voilà, une convaincu. Promenade en montagne ou dans les champs ou au bord de la rivière avec ses parents ou ses grands-parents, et ben.
Voilà.
Il y a plein de petits déclics qui peuvent se faire. Et
finalement, on dit merci à tes
parents. Et qui font des grands hommes.
Parce que alors, j'ai eu la chance, mais c'est vrai que là, il y a un gros travail au niveau à faire pour se reconnecter tous ces enfants
et
à la nature.
Comme tu disais tout au début, c'est des fois un seul moment qui suffit. Ouais. C'est-à-dire que, bon, toi, tu as baigné complètement, mais une chance, un moment, à quelqu'un qui va découvrir quelques plantes, qui va faire ainsi un petit affût rouge-gorge. Qui va...
ouais, bien, j'y crois, ces déclics-là. Et surtout, quand on a des gamins qui ont entre 7 et 15 ans, là, ça peut arriver assez tôt, là, vraiment. Il y a un gros travail à faire là-bas, au niveau des collégiens. Ouais.
Merci beaucoup, en tout cas, de ce clin d'œil clic-clac. Merci.
À
bientôt.
À bientôt, au revoir.
Merci.
Merci Vincent Munier, merci pour tous ces moments de nature que tu nous fais partager. Et puis dans le public, donc une personne voulait nous offrir apparemment un poème, enfin il y a une intervention là dans le public. C'est les joies, Annette, de la voix en expansion.
C'est des joies extraordinaires, oui.
Voilà, il y a la voix de son maître, la voix en expansion, mais en tout cas celle-là est complètement inattendue. Eh bien on va écouter ce poème unique et je pense que... Je sais pas, si un jour quelqu'un s'entend à la radio, il peut nous envoyer un petit mot, ou si vous connaissez la personne, n'hésitez pas à nous envoyer, parce que c'est vrai que on ne peut pas dire son nom, parce qu'on ne sait pas si c'est arrivé comme ça.
On ne sait pas.
Voilà, c'est de la surprise. À très bientôt, donc, sur Des Voix en Expansion. On finira par ce poète extraordinaire, Annette. Je rappelle que Voix en Expansion, les quelques, j'allais dire, Cyril, nous les allons faire sur toutes nos rencontres qu'on a eues au Festival. Avec bien sûr des surprises de plus en plus belles.
Voilà, donc une grande série de reportages vont continuer à vous attendre.
À très bientôt.
L'habitude de dire des textes en public, donc peut-être je vais avoir des accros, puis bah, si je me rappelle plus, bah, vous en aurez un petit mot au moins. Donc c'est « Je pars au bout du monde ». Ben voilà, déjà, c'est difficile hein, de se confronter à ça. Je pars au bout du monde. Sur un coup de tête, un besoin d'évasion. Je m'envole, je décolle. Je prends l'avion, ici, à Paris. Là-bas, à Bali, libre comme l'air, survole les mers, je traverse les survole les mers, change d'hémisphère, je traverse les fuseaux horaires, je m'envole, je décolle sur des vols charter, discount, low cost, pas cher. Je pars à l'autre bout du monde pour un oui, pour un non. Je prends l'avion, comme d'autres leur vélo. On peut le dire, il n'y a pas photo, mais c'est pas donné à tout le monde. Moi. Je vais pas m'en priver sous prétexte que d'autres vont à pied. C'est vrai, ils n'ont pas de vélo, pas de visa, pas de charter. Mais bon, ils peuvent prendre la mer. Et puis, c'est pas mon problème. Moi, je vais pas m'en priver sous prétexte. Ah, je recommence, excusez-moi. Mais bon, c'est pas mon problème. Je vais pas. Oui, c'est ça. Je vais pas me faire moine, je vais pas me faire nonne pour des histoires de carbone. Je pars à l'autre bout du monde, je le sais, les avions. Ça fait un max de pollution, mais bon. Ah mais je recommence, j'ai dû me tromper. Ça fait rien, je le continue comme ça. Le Machu Picchu, Buenos Aires, Katmandou, Bora Bora. J'ai besoin de prendre l'air, je veux voir tout ça. Les changements climatiques, c'est pas ça qui m'en empêchera. J'y crois, j'y crois pas. Il y en a qui disent qu'on ne riait pour rien. Tout ça, c'est du baratin. Je pars à l'autre bout du monde, je fais le Kilimandjaro. Un road trip jusqu'à Ushuaia. Un trek, non. Du rafting dans le Monténégro. Un trek dans l'Himalaya. Je me fais un selfie devant l'Everest. Et puis je me déleste de tous mes restes, mes déchets d'aventurier. Ouais, mais bon, pour ces pays, c'est le prix à payer. Ce progrès, ils peuvent plus y renoncer. D'ailleurs, moi non plus. J'ai pas tout vu. Je suis plein de projets. Demain, je m'embarque pour une croisière. Je vais sillonner les mers, libre comme l'air. Je le sais, j'en entends parler de la flonde des glaciers, des atolls disparus, des côtes englouties, des gens qui se retrouve à la rue. Oui, bon, chacun ses problèmes. Je vais pas m'encombrer avec des scénarios catastrophes. Demain, je vais voir les orques. Demain, j'embarque pour une croisière. Demain, je m'embarque pour le cercle polaire. Demain, je m'embarque pour le cercle polaire. Ah oui, ce qui me préoccupe, c'est les bateaux trouvés les plus beaux, les plus belles croisières. Les meilleures destinations du monde. Charles, ces eaux bleues. Charles, mon amour, n'est-ce pas vertigineux? Et le chant des baleines, Charles, tu l'entends? Charles, mon amour, n'est-ce pas fabuleux? Prends-les donc en photo, ces baleines bleues.
Excusez-moi, c'est vrai.
Merci.
Merci.
Quelle belle rencontre, merci. Merci.